La voix de la crime. Un podcast pour mieux comprendre la jurisprudence de la chambre criminelle. Avec la participation d'Ida Chaffaille et Olivier Violo, conseiller référendaire, et de Guillaume Fradin, directeur du service de communication de la Cour de cassation.
37 800. C'est, selon le ministère de la Justice, le nombre de condamnations pour violences sexuelles prononcées en France entre 2017 et 2022. Les trois quarts de ces condamnations concernent des agressions sexuelles. Ce nouvel épisode de La Voix de la Crime, vous l'aurez compris, est consacré à cette infraction, l'agression sexuelle. Nous allons l'appréhender au prisme d'un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 septembre 2024. Ida, Olivier, pouvez-vous nous présenter l'affaire dont il est question et nous dire ce qu'apporte la décision de la Cour ?
À l'origine de cette procédure, une jeune femme, âgée de 18 ans, a déposé plainte pour viol à l'encontre de son oncle. Elle a expliqué qu'à l'occasion d'un séjour chez son oncle et sa tante, et alors qu'elle dormait dans le même lit que sa cousine, âgée de 6 ans, elle avait été réveillée un matin par les gestes que son oncle pratiquait sur son corps, et qu'elle en avait été choquée, incapable de réagir, même par la parole. L'oncle mis en cause a été entendu dans le cadre d'une garde à vue, puis par un juge d'instruction, et il a expliqué avoir rejoint sa nièce dans son lit. Il a admis avoir pratiqué des attouchements sur la personne de celle-ci sans lui demander son accord. Il a cependant assuré qu'elle ne s'était pas opposée à lui et qu'elle n'avait pas fait part de son désaccord. Le juge d'instruction l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle. Nous avons vu dans le précédent numéro qu'on parle d'un prévenu pour désigner la personne mise en cause qui est poursuivie devant une juridiction correctionnelle. L'oncle de la plaignante, le prévenu donc, a été relaxé par le tribunal. Cette décision a été contestée par le procureur de la République et par la plaignante, qui ont relevé appel. La cour d'appel a eu une analyse différente de la situation. Elle a considéré que l'oncle de la victime, de 20 ans son aîné, avait agi en connaissance du défaut de consentement de celle-ci, en relevant qu'il avait procédé à des attouchements alors que la victime était endormie, puis avait poursuivi ses agissements tandis que cette dernière se trouvait dans un état de prostration. La cour d'appel l'a donc condamné pour agression sexuelle. Le prévenu a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision et il a soutenu devant la cour de cassation qu'il n'avait pas conscience de l'absence de consentement de sa victime et n'avait donc pas voulu commettre l'infraction reprochée. La chambre criminelle a rejeté ce pourvoi en approuvant le raisonnement de la cour d'appel qui avait caractérisé que le prévenu avait surpris le consentement de sa victime en toute connaissance de cause, puisqu'il avait constaté son état de sidération dans le contexte que je viens de rappeler.
À la suite du rejet de son pourvoi, l'auteur des faits a donc été condamné définitivement pour agression sexuelle. Dans le précédent épisode de La Voix de la Crime, vous nous aviez expliqué que le principe de légalité impose au législateur de définir les comportements incriminés avec précision. Existe-t-il une énumération des actes susceptibles de constituer une infraction sexuelle ?
Non, une telle liste n'existe pas. La méthode retenue dans la loi est plus adaptée aux réalités humaines. La loi définit les infractions à caractère sexuel en termes généraux, et il revient ensuite au procureur, puis au juge, de vérifier si, dans chaque situation, les conditions posées par le législateur sont ou non réunies pour pouvoir poursuivre et condamner l'auteur d'une telle infraction.
Quelles sont ces conditions ?
De manière très générale, pour que l'auteur d'une infraction sexuelle soit condamné, le juge doit constater, d'abord, que cette personne a commis un agissement de nature sexuelle, ensuite, que cet acte a été subi par une personne qui n'y a pas consenti. Ces deux conditions constituent le comportement incriminé, ce que les juristes appellent l'élément matériel de l'infraction. Notez dès maintenant, car c'est le point le plus délicat de ces incriminations, que la législation française ne se réfère pas expressément au défaut de consentement. C'est d'abord la Cour de cassation qui a placé ce défaut de consentement au cœur de l'incrimination et nous y reviendrons. Enfin, à côté de cet élément matériel de l'infraction, le juge doit constater que l'auteur a imposé cet acte à sa victime en toute connaissance de cause. Il s'agit ici de l'élément intentionnel de l'infraction. Il existe un principe en droit pénal, posé à l'article 121-3 du Code pénal, selon lequel l'auteur d'un crime ou d'un délit ne peut en être reconnu coupable que s'il est établi qu'il avait l'intention de le commettre.
S'agissant de la première condition qui constitue l'élément matériel, à savoir l'acte sexuel lui-même, le Code pénal incrimine deux types d'agissements à caractère sexuel. D'une part, l'article 222-23 du Code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital. D'autre part, par opposition à ces actes, toute autre atteinte sexuelle constitue une agression sexuelle, ainsi que le prévoit l'article 222-22 du Code pénal. Pour caractériser une telle agression sexuelle, il faut nécessairement un contact physique entre l'auteur et sa victime. Mais il n'en existe pas de liste limitative. La Cour de cassation considère en effet que, je cite, « le caractère sexuel d'un acte peut être déduit de la manière dont il a été effectué et du contexte dans lequel le fait se sont déroulés ». La qualification d'agression sexuelle a ainsi pu être retenue, dans un arrêt du 3 mars 2021, pour un attouchement qui ne portait pas sur une partie du corps qualifiée de sexuelle, puisqu'il s'agissait d'une caresse sur la jambe d'une fillette, du mollet jusqu'au genou, à même la peau, par un homme qui a simultanément exhibé son sexe.
S'agissant du second aspect de l'élément matériel de l'infraction, qui tient au défaut de consentement de la victime, le Code pénal incrimine, depuis son entrée en vigueur, les actes sexuels commis, je cite le texte, car les expressions choisies par le législateur sont importantes. Un acte commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Il s'agit, pour le législateur, de préciser dans quelles conditions l'acte sexuel a été imposé à la victime. Il faut que le juge constate que les actes sexuels ont été commis de l'une ou l'autre de ces manières, pour qu'il puisse condamner l'auteur des faits, ce qui suffit, en général, à établir la preuve de l'intention de commettre l'infraction. Le juge se doit donc de caractériser l'exercice de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise au regard des circonstances particulières des faits dont il est saisi. Et la décision de condamnation qui ferait l'impasse sur cet élément matériel de l'infraction encourt la censure, comme la Cour de cassation l'a encore rappelé dans un arrêt du 25 janvier 2023. Mais attention, si l'obligation pour le juge de constater l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou de la surprise est générale quand la victime est majeure, il existe des spécificités lorsqu'elle est mineure. Il existe en effet des dispositions particulières, dans le détail desquelles il sera difficile d'entrer aujourd'hui, qui ont pour objet de mieux réprimer les actes dont ces mineurs sont victimes. Ainsi, le législateur, par deux lois récentes du 3 août 2018 et du 21 avril 2021, a fait évoluer les définitions des infractions sexuelles commises sur leur personne dans cet objectif. Cette dernière loi d'avril 2021 a notamment supprimé, aux articles 222-23-1 et 222-29-2 du Code pénal, l'exigence du recours à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, lorsqu'un acte sexuel a été commis par un majeur sur un mineur de 15 ans, et qu'il existe une différence d'âge d'au moins 5 ans entre eux. Cette condition de différence d'âge est même supprimée lorsqu'il s'agit d'une relation au titre de la prostitution.
À plusieurs reprises, vous venez d'insister sur l'absence du consentement de la victime pour caractériser une infraction sexuelle. Pourtant, comme nous venons de le voir, cette notion n'apparaît pas dans les textes de loi. Expliquez-nous.
Vous avez raison. La loi n'évoque pas expressément le défaut de consentement de la victime. Notre société étant fondée sur un principe de liberté, notamment sexuelle, le législateur a choisi d'énumérer les situations dans lesquelles un rapport sexuel n'a pas été ou n'a pu être consenti. Pourtant, la question du consentement est au centre de la définition de l'infraction de viol, et plus généralement des infractions à caractère sexuel, puisque dès le milieu du XIXe siècle, par un arrêt du 25 juin 1857, la Cour de cassation avait précisé que le viol consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté. Il faut redire ici que si le texte ne parle pas expressément du défaut de consentement, pour la Cour de cassation, c'est le cœur de l'incrimination. C'est pourquoi la Chambre criminelle a énoncé récemment, dans un arrêt du 15 mai 2024, que, je cite, « la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, caractérise le défaut de consentement de la victime ». Il s'agit toutefois d'un aspect de droit pénal spécial qui est susceptible d'évolution, puisque des débats ont actuellement lieu sur la nécessité d'intégrer la notion de consentement dans la définition des infractions sexuelles. L'arrêt sélectionné aujourd'hui et les exemples cités tout au long de ce podcast montrent que la définition actuelle permet toutefois d'embrasser des situations qui sont très diverses.
Pour en revenir à l'arrêt du 11 septembre 2024 qui a été sélectionné pour ce podcast, la Cour de cassation a énoncé le principe suivant, je cite « Le consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise ». Fin de citation. Violence, contrainte, menace, surprise. Vous venez de nous parler de cette énumération au titre de l'élément matériel de l'infraction. Je vois bien à quoi peuvent correspondre la violence et la menace. Peut-on s'arrêter sur les notions de contrainte et de surprise ?
Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, rappelons que la victime était majeure au moment des faits. Dans cette situation, l'agression sexuelle ne pouvait être caractérisée que si elle avait été commise par violence, contrainte, menace ou surprise. Les notions de violence et de menace n'appellent en effet pas de développement particulier, chacun voit bien de quoi il s'agit. En revanche, celles de contrainte et de surprise méritent quelques illustrations pour être mieux comprises. Commençons par la contrainte. Le législateur a, depuis 2010, voulu préciser cette notion. Et il a indiqué, à l'article 222-22-1 du Code pénal, que la contrainte peut être physique ou morale. Chacun se fait une idée précise de la contrainte physique. La contrainte morale, quant à elle, se situe sur un plan psychologique. Elle a pu être valablement retenue, par exemple, en présence d'attouchements commis par un individu se revendiquant d'une méthode thérapeutique traditionnelle, qui les a effectués alors que sa victime, sa cliente, était allongé sous lui en état de sidération. C'est un arrêt de la Chambre criminelle du 3 mars 2021. De même, la contrainte morale a été retenue à l'égard d'un mineur en situation irrégulière et isolé sur le territoire national, qui a subi des actes sexuels moyennant rémunération par un homme de plus de 30 ans son aîné. Il s'agit cette fois d'un arrêt du 4 septembre 2019. Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi du 21 avril 2021, l'article 222-22-1 du Code pénal précise que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre l'auteur des faits et sa victime et de l'autorité de droit ou de fait que l'agresseur exerce sur sa victime. La loi a même pris en compte le très jeune âge de la victime, puisqu'il suffit pour les juges de constater que la victime ne disposait pas du discernement nécessaire pour les actes sexuels pour caractériser la contrainte morale, comme la surprise, dont nous allons maintenant parler.
Pour en venir maintenant effectivement à la notion d'atteinte sexuelle commise par surprise, il faut entendre cette notion comme étant une surprise du consentement de la victime, au sens où cette dernière a subi un acte inattendu auquel elle n'a pu consentir. L'affaire à l'origine de l'arrêt du 11 septembre 2024 en est une très bonne illustration, puisque la victime des faits était endormie et a été réveillée par les actes sexuels que son oncle commettait sur sa personne. On voit bien dans cette situation que l'acte était pour le moins inattendu pour elle et qu'elle n'a pu y consentir. Plusieurs arrêts rendus par la chambre criminelle permettent de bien appréhender le sens de cette notion d'acte sexuel commis par surprise. La Cour de cassation a, par exemple, jugé que constitue une agression sexuelle le fait de profiter, en connaissance de cause, de l'erreur d'identification commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel dans un arrêt du 11 janvier 2017. Il s'agissait, dans cet arrêt, d'une situation dans laquelle une femme avait subi des actes sexuels dans le noir en pensant qu'ils étaient commis par son compagnon, l'auteur ayant profité en connaissance de cause de cette confusion. De même, dans un arrêt du 23 janvier 2019, la chambre criminelle a eu à se prononcer sur la nature du rapport sexuel consommé entre des femmes âgées d'une trentaine d'années et un homme âgé de 68 ans qui s'était présenté sur les réseaux sociaux comme étant dans leur classe d'âge à partir d'une photographie ne lui correspondant pas. Cet homme avait réussi à les convaincre de se présenter à son domicile et avait organisé un scénario pour les soumettre à un rapport sexuel les yeux masqués et les mains attachées, leur laissant découvrir la réalité à l'issue de ce rapport. Dans cette situation, la chambre criminelle a considéré que le rapport sexuel n'avait pas été librement consenti et qu'il avait été commis par surprise. À l'occasion de cette affaire, la Cour de cassation a posé pour principe que, je cite, « constitue la surprise l'emploi d'un stratagème destiné à dissimuler l'identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d'une personne et obtenir d'elle un acte de pénétration sexuelle. »
Pour conclure, il faut retenir que l'état de sidération d'une personne qui subit un acte sexuel ne peut permettre de considérer qu'elle y a consenti. Dès lors que l'auteur des faits a eu conscience que l'acte qu'il impose à sa victime est à l'origine d'un état de sidération chez elle, il s'en déduit que les faits ont nécessairement été commis avec contrainte ou surprise sur elle.
C'est la fin de ce podcast. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Vous pourrez lire toutes les références des décisions citées sur le site de la Cour de cassation, rubrique kiosque.
Merci également à l'équipe d'Amicus Radio pour leur soutien technique et leur précieuse assistance.
Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain podcast de la Chambre criminelle. N'hésitez pas à faire part de vos demandes d'explications de jurisprudence en nous adressant un courriel à lavoixdelacrime.cour de cassation@justice.fr. À bientôt.